Et par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous. En ce 12 juin, c'est Clotilde Seil qui vous présente sur Canal M les paractualités du jour avec comme titre « La KIS nous apprend par voie de communiqué qu'elle lance un ultimatum au gouvernement en lien avec les besoins en déficience intellectuelle. Il n'est plus possible d'installer son climatiseur dans les CHSLD du nord de Montréal ». Une entrevue d'abord avec Hélène Picard, fondatrice et présidente de Coup de pouce, une entreprise de la Beauce qui offre de l'insertion à l'emploi pour des jeunes ayant tout type de limitations fonctionnelles. Et une autre un peu plus tard avec Véronique Fagui, ergothérapeute de la clinique Parents Plus. Également à l'émission, la maison Jean-Eux de Bergeron d'Alma est toujours en quête de financement et la PHC déclenche les rires en présentant un extrait du Malade imaginaire. Enfin, nationale d'abord, des Saskatchewanais inquiets de la qualité des services en transport adaptés repris par le secteur privé. Et en France, c'est un inédit au théâtre, un système de sous-titrage en live. Alors, la KIS nous apprend par voie de communiqué qu'elle lance un ultimatum au gouvernement en lien avec les besoins en déficience intellectuelle. L'Association du Québec pour l'intégration sociale, la KIS donc, a participé le 7 juin dernier à une conférence de presse à l'Assemblée nationale en compagnie du député de Saint-Jean, M. Dave Turcotte, d'associations travaillant en déficience intellectuelle ainsi que de parents d'enfants ayant une déficience intellectuelle. Lors du point de presse, M. Turcotte a souligné le manque de volonté politique du gouvernement face aux demandes répétées réclamant un réinvestissement en déficience intellectuelle. Rappelons que M. Turcotte avait déposé une motion en chambre le matin même afin de demander un réinvestissement en déficience intellectuelle. La motion, unanimement supportée par les partis d'opposition, a été rejetée par le Parti libéral. Lors du point de presse, Mme Stéphanie Cloutier, mère d'une jeune fille vivante avec une déficience intellectuelle, a expliqué les différentes problématiques qu'elle a rencontrée depuis la naissance de sa fille, entre les listes d'attente interminables avant l'accès à des services de base, l'absence de services continus ou encore la privatisation de certains services indispensables, comme les évaluations cliniques. Pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, la vie des familles est plus que difficile. Madame Annick Larose, directrice de la KIS, a souligné que les problématiques exposées par Madame Cloutier étaient symptomatiques d'une situation beaucoup plus large à travers la province. La KIS n'a cessé de répéter que les politiques d'austérité nuisaient aux plus vulnérables et avait un impact particulièrement marqué sur les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs familles. La première étape de la mobilisation annoncée est marquée par le lancement d'une pétition instiguée par Mme Cloutier, membre de la KIS, et du regroupement pour la trisomie 21. La pétition est disponible en ligne au www.j'appuieladi.ca. Obligé de payer l'air climatisé, écrit Nicolas Lachance dans le Journal de Québec, il n'est plus possible d'installer son climatiseur dans les CHSLD du nord de Montréal. Les bénéficiaires sont désormais forcés d'opter pour un appareil loué à forfait et celui-ci coûte 4 fois plus cher. Alors qu'à Québec, les bénéficiaires peuvent installer leur propre climatiseur sans frais, à Montréal, la situation est complètement différente. Robert Tremblay est en colère, comme plusieurs autres de ses voisins et voisines du centre d'hébergement et de soins de longue durée Notre-Dame de la Merci. « C'est encore une façon de venir chercher de l'argent dans nos poches », peste l'homme de 56 ans. Les résidents comme M. Tremblay devront à l'avenir utiliser des climatiseurs installés par leurs 2 fournisseurs sous contrat avec l'organisation. Ainsi, les résidents devront débourser 229 $ par année dès 2018 afin d'avoir un système dans leur chambre pour survivre aux périodes de canicule. Selon M. Tremblay, le gouvernement s'en prend encore aux gens les plus vulnérables. « Si j'étais millionnaire, je ne serais pas ici, je serais chez moi », a affirmé frustré l'homme aux prises avec une grave paralysie. Les résidents auront payé plus de 1100 dollars chacun après 5 ans pour l'air conditionné dans leur chambre. Pour le moment, 361 résidents du CIUS ont manifesté leur désir d'avoir un climatiseur. Toutefois, le CIUS mentionne aux résidents que le bâtiment a une capacité électrique limitée et que si le nombre de demandes surpasse les capacités, une priorité sera accordée selon l'état de santé du résident. Le porte-parole du CIUS a dénoté l'état vétuste des CHSLD pour expliquer cette politique. Aujourd'hui, je vais m'entretenir en premier lieu avec Hélène Picard, qui est fondatrice et présidente de Coup de Pouce. C'est une entreprise de la Beauce qui offre de l'aide pour l'insertion à l'emploi pour des jeunes ayant tout type de limitations fonctionnelles. Elle va nous en parler tout de suite. Bonjour, Madame Picard.
Bonjour, Madame Clotilde. Vous allez bien?
Oui, je vais très, très bien, vous-même.
Très bien, merci, ma chère madame.
Bon, alors, on va d'abord faire un petit retour peut-être sur la mission de Coup de Pouce. Que vous présidez, Mme Picard?
En fait, Coup de Pouce a été créé pour venir en aide aux jeunes en difficulté d'apprentissage. Donc, la façon de démarrer Coup de Pouce, on n'a pas tellement eu le choix de le démarrer sous l'angle privé parce que personne ne croyait au projet à l'époque, il y a 14 ans. Alors, on a démarré une entreprise dans le domaine de la sous-traitance manufacturière pour permettre une exploration professionnelle au niveau des jeunes qui sont en cheminement chez nous. Mm-hmm. Alors, on fait toutes sortes d'activités, de l'antenne de grue, pour vous dire à quel point c'est éclaté là, comme activité de travail, de l'antenne de grue au sac de vis qui est dédié pour le marché, entre autres, là, de la quincaillerie et de la fabrication de meubles.
Excusez-moi, quand vous me dites de l'antenne de grue,
oui?
J'ai un petit peu de mal à imaginer juste ce que c'est, Madame, okay. Madame
ça,
Picard.
Ça mesure à peine 4 pouces, c'est dans le secteur électronique.
C'est
une activité... Qui est du secteur électronique et d'électricité. Donc, mm-hmm. on fait de la soudure là-dessus. C'est coupé, c'est dégainé, soudé. Alors, il y a toutes sortes d'activités qui demandent de la dextérité fine. Donc, quand on est dans l'exploration professionnelle, ça permet aux jeunes de vraiment explorer leurs talents.
Et il y a eu récemment un gala, hein, un gala reconnaissance, c'est bien ça? C'était le 5 juin dernier?
Oui, oui, tout à fait. Pour nous, c'est important, dans le cheminement à travers les jeunes, de féliciter les réussites.
Oui, bien
alors,
sûr.
L'activité est en collaboration avec deux commissions scolaires, la commission scolaire Beauce-et-Chemin et la commission scolaire Côte-du-Sud, qui sont partenaires à l'intérieur du programme de Coup de Pouce. Et on venait féliciter, je vous dirais, on est venu aussi reconnaître tous les petits pas, aussi petits soient-ils, ces petits pas dans la bonne direction pour éventuellement être en mesure d'intégrer le marché du travail.
Alors, qui sont-ils, ces employés de Coup de Pouce, Madame Picard?
En fait, on a une vingtaine d'employés réguliers, si on veut, une vingtaine d'employés qui agissent comme coach, alors qu'ils nous arrivent de toutes sortes d'activités. On peut avoir des couturières si jamais on avait des projets de couture, donc on a des gens spécialisés qui vont accompagner. Actuellement, on a 35 jeunes en cheminement. Donc, les jeunes qui nous parviennent du monde scolaire, du monde des centres de réadaptation en déficience intellectuelle. On a aussi au niveau de la réadaptation physique. On travaille également avec le CIS. Donc, et tout simplement des jeunes qui ont moins de motivation à l'école, qui ont besoin des fois d'un petit coup de pouce juste pour, je vous dirais, être capable d'être en mesure de situer un petit peu ses intérêts et ses talents pour éventuellement se diriger vers un métier quelconque.
Mais quand vous dites, Madame Picard, que dans le cadre de Coup de Pouce, vous les aidez avec des méthodes différentes que vous utilisez pour l'apprentissage, quel genre de méthode?
Écoutez, on va loin là, dans notre stratégie. Nous, à partir du moment où on reçoit un projet d'un client, on le décortique à sa plus simple expression pour permettre à tout le monde d'avoir accès à pouvoir y travailler. Mm-hmm. Donc, on va aller jusqu'à développer des gabarits. Et je peux vous donner le dernier gabarit qui a été monté. On l'appelle le gabarit « Comment compter sans compter ». Alors, c'est une technique de travail qui permet à tout le monde de pouvoir participer à l'activité qui est, par exemple, la préparation des sacs qui vont nous servir éventuellement pour fabriquer des assemblages de sacs. On parle de 5 à 6 000 sacs d'accessoires par semaine.
Okay.
Donc, compter les sacs, d'avoir exactement le bon nombre, c'est hyper important pour nous. Alors, c'est parce que la qualité chez le client, ben, c'est le bon nombre de sacs dans les boîtes.
Et j'aurais voulu aussi, il me semble que j'ai encore plein de questions pour vous. Évidemment, le but de la chose, c'est que ces jeunes-là s'en aillent à un moment donné, non?
Tout à fait, tout à fait. Donc, on a cette année un projet pilote qui a eu lieu avec un de nos partenaires, Sphère Québec, et la Commission scolaire Côte-du-Sud. Nous avons reçu les jeunes pendant une année. Et l'objectif qu'on avait en collaboration dans ce projet-là, ça a été de non seulement les préparer à intégrer le marché du travail, mais également faire la boucle, c'est-à-dire chercher les employeurs potentiels, vendre l'idée ces jeunes-là ont vraiment leur place dans l'intégration au travail s'ils sont bien préparés, accompagner l'entreprise qui accepte d'intégrer les jeunes que nous avons préparés et en même temps coacher leurs équipes pour par la suite la personne qui intègre va non seulement intégrer le marché du travail, mais a de fortes chances de le maintenir.
Eh bien, tout un programme. Et puis, il y en a qui restent chez vous tout le temps?
On a quand même des ententes avec des partenaires. D'accord. Comme le CRDI. Il y a une entente pour une équipe de jeunes qui peuvent évoluer à l'intérieur de notre système, mais ils doivent toujours ils sont à l'intérieur de notre laboratoire d'apprentissage. Puis ce qui est important, c'est que ces jeunes-là aient vraiment la capacité d'apprendre.
Donc, oui, bien sûr.
Qu'ils puissent continuer à progresser. Ça, c'est une des exigences que nous avons.
Eh bien, écoutez, Madame Picard, Hélène, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Très beau travail encore qui est offert, on le rappelle, dans la Beauce. Hein, ce
coup de pouce. À Sainte-Marie et bientôt à Mégantic.
D'accord. Et pour vous joindre, pour en savoir plus, est-ce qu'on peut faire coup de pouce point quelque chose?
Coup de pouce, c'est coup de pouce 2P de suite .ca.
Coup de pouce 2P.
Oui, c'est coup de pouce 2P de suite .ca.
D'accord. OK.
Alors, merci infiniment, madame.
Mais de rien, madame Picard. Passez une très belle journée.
Vous pareillement, madame. Au revoir.
Au revoir. En région, la maison Jean-Eudes de Bergeron d'Alma est toujours en quête de financement. La coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est et le comité de relance de la mission et de la maison Jean-Eudes de Bergeron ont demandé à Québec un financement temporaire pour assurer la survie de la résidence d'Alma. C'est d'après un texte de Megan Dion paru sur le site de iciradiocanada.ca. Ceux-ci ont proposé une solution à long terme et sont toujours en attente d'une réponse de la Société d'habitation du Québec, qui pourrait assumer les coûts d'hébergement des personnes lourdement handicapées qui y vivent. Le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a pour sa part accepté de fournir les soins de santé au centre d'hébergement. En attendant la réponse, nous avons besoin d'une aide financière exceptionnelle du gouvernement pour maintenir les services, sans quoi nous serons obligés de mettre la clé sous la porte avant même de savoir s'il y a une solution, a déclaré le président de la coopérative, Gilles Bergeron. Nous, les résidents, voulons rester chez nous à la maison Jean-Eudes Bergeron. Il faut que le Premier ministre intervienne pour s'assurer que nous puissions rester ici au moins le temps que notre dossier soit traité. Ce n'est pas le moment d'abandonner et nous ne voulons pas déménager, a indiqué l'un des résidents et porte-parole du comité de relance de la maison Jean-Eudes Bergeron, Gino Lebel. En pause.com, c'est Sébastien Roy, le journaliste, qui nous apprend que l'APHC déclenche les rires en présentant un extrait du Malade imaginaire. L'Association des personnes handicapées de la Chaudière, l'APHC, a présenté une adaptation de la pièce de théâtre Le Malade imaginaire de Molière, c'était le 3 juin dernier, à la salle Denise Rodrigue du Centre culturel Marie Fitzbach. De nombreux spectateurs se sont réunis dans la salle Denise Rodrigue pour assister aux performances des acteurs. Les comédiens ont capté l'attention du public et ont su déclencher des rires, par leur jeu notamment. Une dizaine de membres de l'APHC se sont initiés au sixième art, sous la direction de Caroline Audet, de Carrousel en scène, à travers différents volets, soit l'écoute, la voix, la diction, l'émotion, l'expression corporelle et l'interprétation et l'interpellation des personnages. Ils ont ensuite répété un extrait de la célèbre pièce pour le présenter dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Pour les participants, ce fut un accomplissement et une preuve qu'ils peuvent être reconnus comme une personne pouvant participer à une activité spéciale, au même titre que la population en général. Je vais maintenant m'entretenir avec une personne qui est ergothérapeute de la clinique Parents Plus, qui est située au centre de réadaptation Lucie Bruno et qui fête ses 20 ans. Véronique Fagui, bonjour.
Bonjour.
Présenté comme ça, j'avais l'impression que c'était vous qui alliez fêter vos 20 ans, mais non, on s'en...
C'est la clinique, la belle clinique qui fête demain nos 20 ans d'existence.
Bon, ben écoutez, bon anniversaire alors à la clinique, dont vous allez nous rappeler la mission, Madame Faghi.
Oui, donc la clinique Parents Plus s'adresse aux futurs parents et aux parents qui ont un désir d'être plus autonomes et de participer davantage aux soins du bébé, de la naissance jusqu'à environ de 2 ans qu'on intervient. Mm-hmm. Donc plus spécifiquement, on offre une évaluation en ergothérapie au départ pour identifier les limitations physiques du parent qui mm-hmm. rendent difficile ou impossible à donner certains soins au bébé en utilisant les équipements conventionnels de bébé. Et on identifie aussi bon les capacités du parent, mais aussi selon les intérêts, quels soins donner à l'enfant que le parent veut oui. donner, ben on intervient à ce niveau-là, puis on offre un service qui s'échelonne environ sur 2 ans.
Alors, quels sont les parents qui viennent vous rencontrer?
Donc, les atteintes physiques peuvent varier selon oui. les diagnostics. Nous, on est un centre en déficience physique, donc il doit y avoir un diagnostic émis, c'est une condition permanente et qui contribue à des atteintes significatives. Mm-hmm. Il y a des gens, par exemple, qui ont la sclérose en plaques, des amputations, qui ont fait un AVC, qui sont en fauteuil roulant à cause d'une maladie neuromusculaire ou d'une lésion à la moelle épinière. Donc, c'est très varié les oui. types de diagnostics. C'est les papas et les mamans qu'on rencontre. Il y en a qui marchent, d'autres, ils sont en fauteuil roulant manuel, motorisé. Mm-hmm. Alors, c'est une clientèle variée.
Bon, mais tout à l'heure, je disais que vous étiez dans le centre de réadaptation, Lucie Bruno, mais vous ne touchez pas que Montréal, hein, Madame Faghi.
Effectivement, on est bien situé ici à Montréal et c'est pratique que les gens se déplacent pour faire l'évaluation en salle, mais on dessert l'ensemble du Québec. Donc, dans les autres régions, quand c'est impossible pour le client de se déplacer pour l'évaluation initiale ici, bien, on le fait à distance, en partie par téléphone, sous forme d'entrevue avec le client, mais il y a aussi une belle collaboration avec un ergothérapeute, soit du CLSC ou d'un centre de réadaptation en déficience physique. Mm-hmm. Et au besoin, on peut utiliser la télé-réadaptation pour se voir avec un écran.
Oui.
Oui, au besoin. Puis, c'est ça, on est même en mesure d'envoyer des équipements adaptés en région. Alors, le client reçoit vraiment un service complet, même si des fois, on ne s'est jamais rencontré en
et
personne.
Et à domicile, c'est ça, parce que c'est effectivement, ils peuvent parfois manquer d'équipement, quoi. Et donc, il faut le voir de vos yeux vus, quoi.
Oui, effectivement. Puis, j'encourage les auditeurs à aller voir le site Internet oui. de la clinique Parents Plus en écrivant dans l'onglet de recherche Clinique Parents Plus et vous allez voir différents équipements. C'est très concret. On a des vidéos pour comprendre comment on a adapté différents matériels comme une couchette adaptée, un parc oui. adapté. On a des équipements pour que le parent puisse déplacer l'enfant à la marche, mais de façon sécuritaire. Mmh. Ou à partir du fauteuil roulant. Donc, regardez les équipements, c'est très concret, mais au besoin, on continue à en développer selon les besoins. Et on regarde aussi en ergothérapie des stratégies, des outils aussi avec le client. Donc, c'est pas juste mm-hmm. des équipements pour être autonome et plus sécuritaire dans les soins à donner.
Une madame en ce moment qui serait enceinte et qui accoucherait dans, mettons, quelques mois, est-ce qu'elle peut déjà venir vous voir avant même l'accouchement?
Oui. Oui, et c'est aussi idéal parce que lors de la grossesse, si on peut débuter l'évaluation, bien, ça permet de bien préparer l'avenue du bébé. Et c'est rassurant pour le parent aussi d'avoir les équipements à la maison pour accueillir oui. le bébé puis donner les soins dès la naissance. Puis quand on parle de soins, ça peut être aussi de tenir le bébé avec les atteintes aux membres supérieurs, aux bras. Oui. Alors oui. Dans un monde idéal, on aimerait faire l'évaluation pendant la grossesse, mais on accueille les parents au cours du parcours là, qui décident d'être référés.
Et je rappelle que c'est jusqu'à l'âge de 2 ans à peu près que cet accompagnement se poursuit, je veux dire jusqu'à l'âge de 2 ans du bébé?
Oui. Habituellement, d'accord. On couvre l'ensemble des soins jusqu'à l'âge de 2 ans. Par contre, je veux juste ajouter une nouvelle offre de service oui. qui est en vigueur depuis le 15 juin 2015.
Oui.
C'est que le ministère des Transports du Québec a émis un nouveau une nouvelle loi qui est un projet pilote. Je vais vous le résumer. Étant donné que ça l'indique un passager sur un fauteuil roulant motorisé, quadriporteur, un passager doit avoir, dans le fond, un dispositif de retenue, doit être attaché si les passagers, si un enfant est attaché sur le parent. Donc, un enfant en bas de 5 ans peut circuler sur l'aide à la mobilité motorisée, mais il doit être attaché. Et pour ça, le parent, pour ce besoin spécifique, peut être référé à la clinique Parents Plus, puis on va identifier quel équipement
utiliser
jusqu'à l'âge de 5 ans. Seulement pour le déplacement sécuritaire de l'enfant. Sinon, pour l'ensemble des soins, le bain, accès à la couchette, prendre l'enfant du sol, les autres soins, c'est jusqu'à l'âge de 2 ans.
Bon, alors vous allez faire quoi assez rapidement, madame, pour célébrer le 20e anniversaire de Parents Plus?
Oui, donc j'invite les auditeurs ou les gens qui ont un intérêt à mieux connaître la clinique, c'est demain, mardi le 13, ici au Centre de réadaptation Lucie Bruno, c'est au 2275 Laurier-Est, à partir de 16h30. Il va y avoir des kiosques sur, entre autres, les services de la clinique Parents Plus, les équipements vont être là, différents kiosques aussi sur, entre autres, l'association des parents qui présentent une situation d'handicap. Donc, il va y avoir un spectacle d'humour. Dave Richer va venir faire de l'humour sur la parentalité. Bon. Des anciens clients de Parents Plus vont être invités aussi, des clients actuels. Et il va y avoir des enfants qui ont reçu les services quand ils étaient tout jeunes, qui vont venir faire des témoignages. Donc, ça va être une belle fête de 16h30 environ à 18h30 demain à Montréal.
Bon, écoutez, je vous souhaite une très, très jolie fête. Bon anniversaire, évidemment.
Merci.
À vous et à toute l'équipe de cette clinique Parents en Plus qui fait un travail formidable au centre de réadaptation Lucie Bruno, Véronique Fagui, ergothérapeute. À bientôt.
À bientôt. Merci. Au revoir.
Alors, par actualité nationale et internationale, STC, des Saskatchewanais inquiets de la qualité des services repris par le secteur privé. Des personnes opposées aux soumissions des entreprises privées pour prendre le relais de la STC ont notamment abordé la question des services adaptés et la formation du personnel lors de l'audience du conseil routier de la Saskatchewan. On parle bien sûr de transport adapté. Selon des personnes présentes, les soumissionnaires ne prévoient aucun dispositif adapté aux personnes handicapées pour faciliter leur déplacement. D'autres se sont demandé si les chauffeurs de ces entreprises auront les mêmes compétences que ceux de la STC pour assurer la sécurité des usagers. Ces personnes soutiennent que la compagnie de transport de la Saskatchewan offrait un service efficace et sécuritaire depuis plus de 70 ans. L'entreprise de transport de marchandises Dical Transport, qui lorgne une partie des activités de la STC, a tenu à préciser aux membres du conseil routier de la Saskatchewan mardi après-midi qu'elle n'entend pas remplacer la société d'État. La propriétaire de l'entreprise, Diane Smith, affirme qu'elle n'offre pas des services sur les mêmes trajets que la STC. Elle a aussi convenu que son entreprise n'offre aucun dispositif adapté aux personnes handicapées pour faciliter leur déplacement. Elle a toutefois affirmé que des changements seraient envisagés si son entreprise est choisie pour reprendre une partie des activités de la STC. Et selon la propriétaire, les chauffeurs de Dical Transport sont qualifiés pour reprendre les trajets souhaités. C'était d'après les informations de Marianne Meunier, parue sur le site de iciradiocanada.ca. C'est inédit au théâtre, un système de sous-titrage en live. Ça nous vient du site français handicap.fr. C'est un article signé Aimé Le Goff. Comment rendre le théâtre accessible aux personnes sourdes et malentendantes? La marque de téléphonie et d'électronique Samsung a récemment élaboré une piste de réponse en lançant son projet Theatre for All Ears, en anglais, le théâtre pour toutes les oreilles au Brésil, pays qui compte près de 10 millions d'habitants sourds. À l'inverse du cinéma, le théâtre rend difficile la compréhension de certaines scènes ou de dialogues, le débit de parole des comédiens pouvant parfois empêcher de lire sur les lèvres. Sur les planches, on ne trouve pas non plus d'interprète, d'où un manque d'accessibilité criant. Pour remédier au problème, Theatre for All Ears propose de traduire en temps réel les dialogues grâce à l'appareil Samsung Gear VR. Concrètement, alors c'est Samsung, GEARVR. Concrètement, le spectateur enfile un casque de réalité virtuelle connecté à un smartphone dont la caméra capte les images et en même temps, le son est traduit en sous-titres grâce à une application mobile dédiée. Imaginée en collaboration avec les bureaux brésiliens de l'agence de communication, Leo Burnett TaylorMade, à l'occasion de représentation d'une pièce intitulée O Pai, le père en brésilien. Ce dispositif a été testé lors d'une première au théâtre de Sao Paulo et est aujourd'hui développé dans plusieurs salles du pays. Andrea Mello, directrice marketing de Samsung Brésil, explique « Nous voulons offrir une expérience différente et unique afin que les personnes vivant avec un trouble de l'audition puissent profiter du spectacle à 100% et en apprécier les décors, la mise en scène et les sous-titres sans passer à côté de détails. Un exemple inspirant d'innovation technologique au service du handicap. En rafale maintenant, le regroupement pour la trisomie 21 vous annonce que le mardi 13 juin, donc demain, se tiendra l'Assemblée générale annuelle lors de laquelle ils présenteront leur rapport annuel et procéderont à l'élection de membres du conseil d'administration. D'autres sujets concernant le RT21 y seront aussi discutés. Soyez des nôtres, nous disent donc le regroupement pour la trisomie 21 dès 18h au Jarry Deuxième Café Bistrot au 2950 rue Jarry Est à Montréal. On peut réserver à réservation@trisomie.qc.ca. Et puis, joignez-vous au comité de sensibilisation du RAM, l'équipe du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain invite ses membres à se joindre au comité de sensibilisation. Le mandat de ce comité est d'organiser une action ou une activité dans le cadre de la semaine de la canne blanche. La prochaine semaine de la canne blanche aura lieu du 4 au 10 février 2018. Les bénévoles du RAM sont aussi les bienvenus au sein du comité. C'est grâce au comité de sensibilisation que la série de capsules vidéo non-voyants, mais pas invisibles, a été produite en 2016 et que le dépliant de sensibilisation, une canne pour voir, a été distribué en 2017. Alors qui sait quel sera le fruit de ce comité en 2018? Venez partager vos idées, même les plus farfelues, pour la conception de la prochaine action. Les rencontres du comité débuteront en septembre prochain, mais n'hésitez pas à donner votre nom dès maintenant en contactant Christine Letendre par courriel à cletendre, cletendre@ram.org ou encore par téléphone au 514-277-4401, 277-4401 au poste 107. Voilà, c'était les paractualités sur les ondes de Canal M, présentées pour vous par Clotilde Sey. Merci beaucoup à toute mon équipe. Je vous donne rendez-vous à demain matin, 11h30, et je vous souhaite une excellente journée. Salut!